RTL l'équipe. Carrément vélo, Emmanuel Barthes.
Bonjour à tous et bienvenue sur RTL Équipe, c'est un plaisir de vous retrouver. 11h midi, c'est Carrément Vélo avec mes invités, on analyse, on décortique toute l'actualité du cyclisme. Au programme du jour, le Tour d'Italie, Alexander Vinokourov domine les débats, 1 minute et 12 secondes d'avance sur Cadel Evans. Vincenzo Nibali complète le podium de jour en jour, Vino s'impose comme le grand favori de ce Giro. Un Giro marqué par une victoire française, celle de Jérôme Pinot, vainqueur de la 5e étape, première victoire pour le français depuis 2004. Au sommaire également, la victoire de Cavendish sur la première étape du Tour de Californie et sans bras d'honneur. Cette fois, Cavendish est leader de l'épreuve californienne. Les 50 jours d'Armstrong, titre emprunté à l'équipe ce matin. L'Américain s'entraîne dur pour se présenter à 100% de ses moyens le 3 juillet prochain à Rotterdam. À partir de 11h30, l'invité du jour est Laurent Jalabert, sélectionneur de l'équipe de France. Il nous dira ce qu'il pense du début de saison des coureurs français, comment il prépare, c'est important même s'il est encore un peu tôt, les prochains championnats du monde à Melbourne, en Australie. Si vous avez d'ailleurs une question à poser à Laurent Jalabert, n'hésitez pas, direction la page Facebook de Carrément Vélo.
11h-12h sur RTL l'équipe, Carrément Vélo.
Et sachez que vous pouvez également écouter ou réécouter le podcast de Carrément Vélo sur RTL.fr. Je rappelle l'adresse RTL.fr et vous allez dans la rubrique podcast. Sachez également que si jamais la liste de Raymond Domenech va tomber dans les prochaines minutes, bien évidemment, on vous tiendra au courant de la composition du groupe qui partira à Tignes pour préparer la prochaine Coupe du Monde. Normalement, cette fameuse liste de 23, 24 ou 25 joueurs, on ne sait pas encore tout à fait, devrait tomber avant 13h. Mais place au vélo, bien sûr. Pierre Salviac, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez magnifique hier, Pierre, depuis les sommets de la tour Saint-Nicolas à La Rochelle. Le plongeon de haut vol, on vous a vu faire preuve de beaucoup de souplesse.
Et oui, je suis un adepte des sports d'extrême, c'est pour ça que j'aime le vélo.
Vous m'avez impressionné. Nicolas Pertuis, il est bien sur terre, lui. Il a les pieds sur terre, c'est plutôt le footing. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
Tout va bien ?
Ça va.
Nicolas Pertuis de Vélo Magazine et Frédéric Millet du Cycle également qui est avec nous. Salut Frédéric.
Bonjour.
On rappelle que notre ami Jean-Paul Brouchon, tiens, on le salue bien sûr, et aux États-Unis,
il
suit très près le Tour de Californie.
Il est en otage ou quoi ?
Non, il passe quelques vacances bien sûr, il sera avec nous d'ici deux petites semaines à présent. Messieurs, on va débuter par le Tour d'Italie si vous le voulez bien,
bien sûr,
parce que tout de même, finalement il y a du spectacle sur ce Giro avec un duel qui s'annonce. On l'a dit déjà, je crois que vous nous le disiez la semaine dernière, Nicolas Pertuis, un duel entre Cadel Evans et Alexander Vinokourov, ça se précise encore davantage.
Ouais, j'y rajouterais Nibali quand même, qui devait pas faire le Giro, mais qui est impressionnant. Et quand on voit les progrès qu'a fait l'Italien, qui est très jeune encore, attention, je crois qu'il a 25 ou 26 ans de mémoire. Les progrès qu'a fait Nibali sur le chrono depuis le début de saison, moi je le mettrais sur le podium. Maintenant, la place est à déterminer.
Il marche bien, les coureurs de la formation Liquigas, depuis le début de la saison.
Oui, parce que quand on regarde le classement général, il y a certes Basso et Nibali, mais il y a aussi Kieserlowski et Agnoli qui sont respectivement 12e et 13e du général. Donc, ça veut dire qu'il y a une grosse équipe et une force en présence très forte.
Et puis, pour parler de la formation Liquigas, il y a eu la révélation Sagan, mais qui n'est pas présent sur le Tour d'Italie. On en reparlera très certainement, Frédéric. Je sais que vous le suivez très près.
Oui, bien
lui,
sûr.
En revanche, il est présent sur le Tour de Californie.
Tout à fait. Mais pour en revenir au Liquigas, c'est vrai que Nibali, il va peut-être faire comme Contador il y a deux ans. C'est-à-dire que Contador est arrivé, directement de sa plage.
Oui.
Et il arrive sans préparation, il est tout de suite très bon. On va voir ce que ça va donner sur trois semaines de course. Mais a priori, il n'était pas prévu sur le Giro, puisqu'il a remplacé Pellizzotti qui a été convaincu de dopage.
Alors Pierre Salviac, que vous inspire ce début de Tour d'Italie? On rappelle une victoire française. Jérôme Pinot, un doublé d'ailleurs, oui, avec Fouchard de la Cofidis sur la 5e étape.
C'est que je trouve que limiter l'éventualité d'une victoire à deux coureurs, en l'occurrence Cadel Evans et Vinokourov, au bout d'une semaine seulement de course, dans un Tour d'Italie à rebondissement, je trouve que c'est prendre beaucoup de risques. Il me semble que c'est prématuré. Il me semble qu'il peut se passer encore plein de choses dans ce Tour d'Italie. Des défaillances, mais aussi des révélations. Et dans ces conditions, moi, je trouve justement que ce Tour d'Italie est suffisamment bien fait pour nous réserver des surprises. Donc, pour l'instant, moi, je suis pas limité à un duel Vinokourov-Cadel Evans.
Vinokourov en rose, ça ne vous pose aucun problème?
Alors, qu'on s'entende bien, si c'est pour voir Vinokourov dans l'étape de samedi, que j'ai personnellement jugé exceptionnel, ça me donne l'occasion...
On peut rappeler donc cette étape...
Non, enfin, j'espère qu'on va en parler quand même de cette étape-là.
On va en parler, allez-y.
Non, c'est pas une parenthèse, je suis désolé.
D'accord.
Ah non, mais j'espère qu'on va faire autre chose qu'une parenthèse de cette étape-là quand même. Parce que alors à ce moment-là, moi j'abandonne le vélo. Non, je veux dire, il y a deux choses. Il y a le Vinokourov entre guillemets, comme je dis, et il y a le Vinokourov qu'on voit à l'œuvre. Et le Vinokourov qui gueule en plus après, quand les étapes, il les trouve trop dures. J'ai à l'égard de ce coureur plusieurs attitudes, plusieurs sentiments. Et quand il est à l'œuvre, et quand il est à son avantage dans des courses aussi difficiles, je veux bien momentanément oublier le reste. Je dis bien momentanément.
D'accord. Vous êtes un vrai téléspectateur. Vous en prenez plein les yeux devant donc, cette fameuse étape, puisque c'est cette étape qui vous a marqué pour l'instant depuis le début du Giro. J'ai même l'impression davantage que la victoire de Jérôme Pinot.
Ah, complètement.
Ah, oui.
Ah, complètement.
Ah oui,
mais attends, le sport professionnel, c'est
quoi?
Le sport professionnel, c'est quoi? C'est d'abord un spectacle, d'accord? Et c'est sans doute pas pour rien que le Tour de France passera par les pavés de l'enfer du Nord. Donc, si c'est un spectacle, et s'il est fait, le sport professionnel, pour réunir un maximum de spectateurs le long des routes et devant les postes de télévision, je dis que le dessin de ce Giro est parfaitement réussi, en tout cas me convient, moi, en tant que spectateur supporteur de vélo.
Pour l'instant, parce que là, messieurs, on se dirige vers une semaine où il ne va pas se passer beaucoup de choses. Hein. Il va falloir attendre la dernière semaine.
Nicolas ne passe pas encore aux semaines à venir. Restons sur l'étape de samedi.
Alors, on va rappeler d'abord un petit peu la configuration et le relief avec cette arrivée, bien sûr, difficile et surtout les conditions climatiques. Comment est-ce qu'on peut dire? Complètement incroyable.
C'est dantesque. On était revenu 100 ans en arrière.
Voilà. Donc, il n'y avait plus de route. C'était un chemin de boue. Enfin, on a tous vu les images, hein, Nicolas Pertuis.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, mais moi je trouve très bien que pour gagner un grand tour aujourd'hui, il faut savoir faire autre chose que grimper et rouler simplement, parce qu'on était rentré dans un certain... il fallait être bon grimpeur et aussi rouleur. On se rend compte avec les bordures aujourd'hui, là sur le Giro, avec les stradets, comme ils disent en Italie, je crois, qu'il faut aussi avoir d'autres flèches à son arc. Hein, et il y a des coureurs qui se sont fait piéger.
Pas beaucoup, hein. C'est quand même une étape qui accouche d'une souris.
Non, mais attention.
Elle élimine des coureurs quand même.
Ça stresse. Oui, 5 minutes.
Oui, mais ça stresse. Basso
a perdu beaucoup de temps. Nibali, il a peut-être perdu le Tour d'Italie là-dessus. Moi, je trouve ça bien qu'effectivement, il faut que les coureurs sachent tout faire pour gagner un grand tour.
En même temps, c'est quand même un risque de la part du directeur de course parce que. Au soir de cette étape, imaginons un Cadel Evans qui passe complètement en travers, qui chute, ou un Vinokourov. On aurait presque pu déjà annoncer le vainqueur du Giro au soir de cette étape, Frédéric Millet. C'est tout de même un risque de la part de l'organisateur.
Non,
je ne suis pas d'accord, parce que ça fait partie des stratégies de course. Ça, c'est vraiment une étape exceptionnelle. Moi, je n'avais pas vu ça depuis longtemps, de voir les gars couverts de boue et tout ça, de voir des cyclocrossmen comme Gadrel français qui était dans les
mais
premiers.
Mais sur le Tour d'Italie, il y avait déjà eu une arrivée en altitude dans la caillasse. Alors, je me souviens plus précisément du
col. Le plan de Cornes et tout ça. Mais là, ce n'est pas pareil. Là, ça sortait de l'ordinaire. Ça reprend la course qu'il y a en début de saison, qui est l'Eroica. Enfin, maintenant, elle s'appelle la Strada Bianche. Mais de mettre ça, j'ai trouvé que c'était un ingrédient formidable. A contrario, moi, ce que je regrette, mais ça fait un bout de temps que je le dis, c'est le contre-la-montre par équipe. Ça me désole de voir que les Lempré, que le petit Cunego qui a l'air de bien marcher est déjà perdu 2 minutes, que Evans ait perdu 1 minute 20 sur un contre-la-montre par équipe. Moi, le contre-la-montre par équipe, je trouve ça d'une injustice totale. Mais bon. Alors, un autre débat.
Mais c'est un débat intéressant. Mais attends, j'ai entendu Kilfen, à propos justement de l'étape héroïque, dire que de toute façon, pourquoi les coureurs se plaindraient, à commencer par Vinokourov, à partir du moment où ils connaissaient le menu avant le repas. C'est pareil pour le contre-la-montre par équipe. Je veux dire qu'au moment où est donnée la carte du Giro, je peux imaginer que les managers, directeurs sportifs connaissent les difficultés et savent qu'il y a une course contre-la-montre par équipe. Et qu'en conséquence, j'ai l'impression qu'ils ont aussi la latitude de former une équipe. Pour cette étape contre la montre. Donc, quelque part, je me dis, bon, il y a un menu, il faut faire avec, et ceux qui ne font pas avec n'ont pas le droit de se plaindre après. Voilà.
Oui, puisque de toute façon, les coureurs savaient très bien avant de venir sur ce Tour d'Italie, Frédéric, que ça allait être une étape compliquée et qu'il fallait la passer. Alors certes, les conditions climatiques n'ont pas arrangé les choses, ça c'est clair.
Non, mais pour celle de samedi, certes, mais les contre-la-montre par équipe, j'ai l'impression que ça fait comme l'an passé avec le Tour de France, c'est-à-dire que les positions, elles sont déjà pas mal figées. Heureusement qu'il y a eu justement cette étape de samedi.
C'est ce qui a lancé la terminée
dimanche, sinon on aurait eu un classement un peu bloqué.
Alors, attends, on est dans le sport spectacle, hein, on est bien d'accord ? On est dans le sport spectacle. Le cyclisme, c'est un sport de l'extrême. D'un point de vue téléspectateur, et encore une fois, je me pose du point de vue du téléspectateur. Moi, je trouve qu'un contre-la-montre par équipe, c'est autrement plus spectaculaire qu'un contre-la-montre individuel.
Je suis d'accord.
C'est pas pour autant que ça a une valeur comparable. Mmh. D'accord ? Bon. Mais encore une fois, moi, un contre-la-montre par équipe, ça fait des images formidables. Ça me cloue devant mon poste de télé, alors que le contre-la-montre individuel, je regarde les 10 meilleurs, point barre. Donc, de ce point de vue-là, je vais dire que je défendrai encore le contre-la-montre par équipe. Et puis.
Donc,
et puis,
vous en fichez qu'il y ait des coureurs qui malheureusement, sont hors course à cause des lacunes de leur équipe.
Mais attends, alors, il y avait la première étape de montagne hier. On sait très bien maintenant depuis longtemps que les étapes de haute montagne dont les organisateurs parsèment les grandes courses, des fois accouchent de souris, parce que ce sont les coureurs qui font la course et les conditions atmosphériques qui la rendent difficile. Donc à un moment ou à un autre, de toute façon, je crois qu'il vaut mieux multiplier les difficultés et la diversité des difficultés pour qu'in fine, ces grands tours restent des tours de légende et qu'ils captivent ce public de vélo qui est, à mon avis, un public intéressant parce que justement, il attend de ses coureurs des exploits, il attend de ses coureurs des excès et il est excessif dans ses attentes.
Alors, Nicolas Pertu, une question de Martin Lardoisier qui nous écoute et qui réagit assez souvent sur la page Facebook de Carrément Vélo. Est-ce qu'attaquer sur chute est autorisé dans le cyclisme moderne ? Il veut parler, bien sûr, de la chute de Nibali et puis de l'accélération de... Oui, et puis il y a eu Vinokourov qui suit un petit peu le train, qui prend le maillot rose. Lui, il déclare qu'il a d'abord attendu et puis finalement, ça a accéléré sur le premier tronçon, pas pavé, mais boueux. C'est dommage, là, tout de même.
Ouais, enfin...
Parce que Nibali, on parle de ces étapes dangereuses, on parle
de
ces étapes
de course,
qui dorment.
Je suis désolé, tu vas pas neutraliser parce qu'avec ce Castagnoli.
Nibali perd le maillot rose Manu. Et quand on sait combien.
A-t-on fait toute une histoire l'année passée quand Bounon a attaqué lorsque Chauve a tombé à la sortie du virage dans sa roue.
C'est pareil. Ouais, je suis pas sûr, Bounon il est en tête. Hein. Chauve était dans la roue.
Il
hein.
était en tête, d'accord, mais Chauve est tombé derrière. Je veux dire, quelle est la grande image que l'on garde du coureur qui aurait pu en attendre un autre ? C'est Ulrich. En 2007 ou 2008, lorsqu'Armstrong gagne son dernier tour, non, je sais plus quelle année c'est, quand Armstrong tombe. Non,
2006.
C'est en 2006. Ulrich l'attend. Là, franchement, ouais. Là, sur ce fait-là, moi, je suis plutôt. Oui, c'est la course. Et puis, faut analyser la course, faut se mettre à la place des coureurs, regarder les conditions dans lesquelles ils sont, c'est quand même compliqué.
Et le principe du vélo, c'est de tenir sur son vélo, je suis désolé.
On est d'accord, mais en même temps,
un mec qui se casse la gueule.
Comme le dit Nico Ricardo El Pistolero, hein, bien sûr, qui est fan d'Alberto Contador, les coureurs ne sont pas du bétail.
Pierre Saviac. Attends. Alors là encore, c'est vrai que... Alors bon, tu veux, qu'est-ce qu'il attend, cet auditeur ?
Il va nous le dire, mais peut-être davantage de respect par rapport aux coureurs.
C'est ça,
puisque
il attend que les coureurs, on leur donne l'hôtel des footballeurs français à la Coupe du Monde, l'hôtel 5 étoiles avec jacuzzi et call girl. Et il attend quoi ? Il attend ça ? Non, justement, ce qui fait l'intérêt du cyclisme, par opposition à ce confort excessif du football. C'est précisément toutes ces difficultés, cette somme de difficultés qui rendent le cyclisme tellement grand qu'on est tous passionnés. Et chacun peut trouver sa motivation dans cette passion. Et les arguments peuvent être différents, mais c'est l'association de tous ces arguments qui font que le vélo, quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, quels qu'en soient les scandales, restera un sport exceptionnel.
Nicolas Pertuis.
Pour revenir sur la course, moi, il y a deux choses, deux faits qui m'ont vraiment marqué et qui vont peut-être... dénoter la suite du Giro. Le premier, c'est le comportement de Vinokourov dans les deux derniers kilomètres du chrono par équipe. Un Vinokourov qui s'énerve contre ses coéquipiers, c'est jamais bon, c'est pas digne d'un grand champion. Deuxième fait qui m'a marqué.
Pour quelle raison il s'est énervé ? Je vous avoue que j'ai loupé cet épisode.
Bah parce que ses coéquipiers n'arrivaient plus à suivre son rythme dans les deux derniers kilomètres. Au lieu d'attendre le cinquième coureur qui était Stengel, qui était à la ramasse et depuis une dizaine de kilomètres et qui passait plus de relais, il gueule dessus.
Mais tu peux être bon et con à la fois. Hein.
Oui. C'est pas être con, c'est simplement dénoter qu'il est stressé,
oui.
Qu'il n'est pas confiant. Il a ensuite perdu Tiralongo avant-hier ou il y a deux jours dans une chute. Enfin bon, on le sent un peu nerveux. Et la deuxième chose qui m'a vraiment marqué, c'est la victoire de Cadel Evans de samedi, mais la manière dont il gagne. C'est-à-dire qu'il emmène tout le monde dans les deux derniers kilomètres et il y a ce faux plat à l'arrivée où finalement il donne tout pour récupérer du temps sur certains et personne n'arrive à le suivre. Est-ce que ça, ce n'est pas le symbole de la suite du Giro, de ce qui va se passer dans des difficultés à de forts pourcentages, comme dans le Zocolan, dans le plan des coronaires.
Bien sûr.
Peut-être qu'on a déjà eu peut-être l'image qui va nous donner la suite du Giro.
Alors ça, c'est pour Vinokourov, ça c'est pour le podium provisoire, bien sûr, du Tour d'Italie. On va vous redonner donc les trois premiers. Premier, Vinokourov, 1 minute et 12 secondes déjà. Tout de même, 1 minute et 12 secondes sur Cadel Evans. Et troisième position pour Vincenzo Nibali, qui lui est pointé à 1 minute et 33 secondes. Basso, quatrième, 1 minute et 51 secondes. Cinquième, Pinotti de la formation Colombia. Donc voilà, pour être tout à fait précis sur les 5 premiers du classement général du Giro. Vous me surprenez tout de même, messieurs. Je suis tout de même étonné.
Qu'est-ce qui t'étonne,
parce qu'on a débuté l'émission à 11h. Ouais. Il est 11h19, bientôt 11h20 d'ici quelques secondes. Toutes les semaines, on se plaint des coureurs français qui ne gagnent pas de grandes épreuves, qui ne gagnent pas des étapes. Et là, on a un Français, on a même un doublé sur la cinquième étape. Ça fait 20 minutes qu'on a débuté l'émission et vous ne voulez pas parler de Jérôme Pinot.
Tant mieux. Si.
Qu'est-ce qui vous arrive ?
Triplé même.
On dirait que ça vous fait mal. On dirait que ça vous fait mal qu'un coureur français remporte une grande épreuve.
J'aime autant la cinquième place de Gadré dans la fameuse étape en question. Parce que quelque part, qu'est-ce que je me dis ? Je me dis que dans un cas, c'était la moindre des choses depuis le temps qu'on l'attendait, Pinot. Donc à la limite, je ne suis pas tellement surpris. Je me dis, il ressuscite, tant mieux. Tant mieux. Mais quand je vois Jeune Gadré dans des difficultés comme celle-ci, sachant que les coureurs cyclistes français, on leur reproche plutôt souvent d'aimer un certain confort. Quand je vois Jeune Gadré se situer dans le classement de cette manière-là, j'ai autant de plaisir à cette cinquième place.
Qui va se souvenir de la cinquième place de Gadré hier?
Mais c'est pas ce souvenir-là que j'ai. C'est l'espoir que j'ai que ce coureur-là a de la moelle pour, dans des conditions difficiles, être concurrent pour une place sur un podium. Voilà.
Frédéric Millet.
Il joue sur le registre de l'émotion. Et moi, je suis à peu près. Ça m'a fait plus d'émotion de voir Gadré en tête avec tous les autres cadors.
Bah oui.
Que de voir. Je ne veux pas minimiser sa victoire. C'est très bien qu'il ait gagné 5 ans et tout ça. Il le méritait. Mais de gagner. Moi, déjà, je suis pro classique d'un jour. Je préfère les classiques que les courses par étape. Enfin, que la victoire d'étape dans une course par étape. Je ne veux pas dire que c'est de la roulette russe, mais il y a toujours des échappés qui partent. Il y en a 8 sur 10 qui sont revus. Il y en a 2 fois sur 10, mettons, qui gagnent. Ce n'est pas pareil que de gagner à la pédale. C'est juste ça que je veux dire. C'est très bien qu'il ait gagné, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même émotion, je trouve.
Pinot vainqueur, tant mieux. Mais dans le même temps, moi, je suis déçu que mon coutier hier n'ait pas gagné.
L'avis du spécialiste, allez, du technicien Nicolas Pertuis.
Pourquoi vous m'appelez toujours le technicien?
Je ne sais pas, parce que c'est Pierre qui vous appelle très souvent.
Non, je l'appelle l'expert.
Même si Frédéric est également très technicien et spécialiste,
c'est
bien sûr.
C'est intéressant d'avoir le point de vue d'un expert. Moi, je joue que sur l'émotion.
Ouais, moi, je suis un peu triste de vous entendre parler du terme ressuscité pour Jérôme Pinot, quand même, parce qu'il ne faut pas être sévère.
5 ans, quand même.
Oui, il le dit lui-même, quand même. Hein.
Oui, mais moi, je me souviens du Jérôme Pinot, il y a 3 ans, dans Paris-Nice, qui fait 2 fois deuxième d'étape à la pédale. Je me souviens d'un Jérôme Pinot jusqu'en 2008, qui était dans les 15 meilleurs des coureurs de classique sur les Ardennaises. Je me souviens d'un Jérôme Pinot qui avait battu un Rebellin en 2004 ou en 2005 sur Paris-Bourges. Je me souviens d'un Jérôme Pinot qui a toujours été là, qui n'a pas gagné. Alors c'est sûr que l'année passée, il a eu une saison qui était moins bonne. Mmh. Mais n'oublions pas qu'il fait quand même deuxième de la Flèche Brabançonne, derrière Anthony Gélin. Il aurait gagné, on aurait tous dit superbe.
Normal, on aurait dit.
Ouais,
c'est un bon coureur, tu le dis toi-même.
C'est un bon coureur.
Sauf que son défaut ou son malheur, appelons ça comme ça, c'est d'avoir quitté une équipe française.
Oui.
Tout simplement.
Donc,
il aurait plus de chance.
La seule chose que française. J'ai envie de dire sur Jérôme Pinot, c'est voilà, il a baissé de niveau l'année passée, c'est un fait. Il a été malade cet hiver, qui l'a vraiment freiné en vue des classiques
dans
cette année.
Dans sa préparation.
Voilà. Mais j'ai envie de dire, ressuscité, non. Soyons bons, nous aussi, soyons là quand il faut le voir. Rappelons-nous l'arrivée du Tour de France en 2009 à Plumelec, c'était à Plumelec. Hein,
oui.
Il fait combien Plumelec, Jérôme Pinot?
Deux ou trois.
Il fait une place
deux ou trois, voilà.
Et...
Eh ben, n'oublions pas que ce coureur
a
des
qualités. Un coureur qui revient pour gagner, c'est ressuscité. Je suis désolé quand tu es absent 5 ans de la victoire.
Messieurs, juste une chose. Il y a un an ici, la majorité des personnes qui étaient dans ce bureau disaient que Cadel Evans était un loser. C'est vrai. Avouez-le.
Oui, mais c'est un nouveau Cadel Evans qu'on a cette année.
C'était le même coureur.
C'est toi qui l'as ressuscité.
C'était le même coureur.
Mais c'est toi qui l'as ressuscité.
Là, je pense que je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Parce que finalement, on voit que sur le prisme de la victoire. Or, j'ai l'impression que c'est l'année où il marche le moins que Jérôme Pinot gagne. Et c'est ça qui est un peu contradictoire. C'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure. C'est que des fois, des coureurs marchent très bien. Il était dans les premiers aux Ardennaises et tout ça, mais il fait des places de 10e, de 6e. Il fait effectivement 2e battu par un Valverde autour. Ça change tout. Et à cette époque-là, il marchait moins. Et là, il gagne. C'est ça que je veux dire. Il y a une espèce de facteur chance qui fait qu'on va se rappeler de 2010, Pinot a gagné une étape du Tour d'Italie, l'année où il a marché le moins.
Des victoires que des places d'honneur,
c'est vrai. C'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, je préfère plus quand il... C'est là où les spécialistes en analyse, on préfère presque une place régulièrement dans les premiers tout au long de la saison qu'une victoire, même si pour le grand public, évidemment, on va se souvenir que de sa victoire.
Mais ne sois pas inquiet, Manu. On se souviendra de la victoire de Pinot comme on se souvient de la victoire de Bernardo dans un Tour d'Italie. Ouais, c'est pas la question. Mais si. Mais c'est ni plus ni moins.
Franchement, je vais vous dire. Quelqu'un véritablement se souvient des conditions et de la victoire de Lemével en 2005 sur le Tour d'Italie.
Mais bien
sûr, quelqu'un ici est capable de dire.
Mais bien sûr, parce que
le nom de l'arrivée.
Mais on s'en fout de l'arrivée. On se souvient qu'il a gagné l'étape dans le Tour d'Italie.
Dernier kilomètre. Attendez, franchement.
On se souvient parce qu'on en parle tout le temps. À chaque fois, on dit Lemével. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné l'étape du Giro.
Ah ouais, franchement, les derniers mois, quand on parle de Lemével, on parle davantage
de ses 3 dixièmes places.
Voilà, de ses 10e places, de ses performances dans les 10 premiers. On ne parle pas de sa victoire au Tour d'Italie.
Ne crois pas qu'on méprise la victoire de Pinot dans une étape du Tour d'Italie. On a assez dit que les Français couraient parfois des courses de seconde catégorie et gagnaient des courses de seconde catégorie pour quand ils gagnent les courses d'un grand tour, on puisse trouver ça bien.
On est d'accord.
Bon, voilà. Encore une fois, moi, pourquoi j'en fais pas un événement extraordinaire, c'est parce que moi, j'attends Pinot à ce niveau-là. Je l'attends capable de gagner, comme j'attends...
Gadry.
Non, celui qui a fait la course pour son équipe de Français, qui a fait la course pour Vauclair. Comme j'attends Vauclair aussi à ce niveau-là, pour gagner une étape dans le Tour d'Italie. Parce que je les crois capables. De là à dire, c'est un événement extraordinaire, je dis non. Alors que si Gadré gagne une étape dans le Tour d'Italie, ça me touche plus parce que voilà un coureur qui arrive, qui présente quand même...
En 2006, il jouait avec les meilleurs en montagne sur le Giro.
Exactement pareil, dans les mêmes conditions.
Avant qu'il se fracture la clavicule. Je ne pense pas qu'il s'est donné quand même le palmarès ni les assurances que pouvait donner un coureur comme Pinot. Donc si tu as un Gadré plus Pinot, c'est tout bonus.
On est d'accord. Au passage, moi j'ai appris que Jérôme Pinot, il avait fait une dépression en 2005. Ça, je le savais pas. Vous le saviez, Nicolas Pertuis?
Non.
Bon, voilà, on apprend des choses tout de même, c'est intéressant.
Il a fait une dépression en 2005.
Il était devenu un peu bouc émissaire de tout le peloton.
Ouais.
T'es de la gueule.
Parce qu'il ouvrait un peu sa gueule par rapport aux histoires de page. Mmh. Et vous avez vu ce qui s'est passé là. Il s'est fait charrier par les journalistes italiens parce que, justement, quand on lui a interrogé à la conférence de presse, il a dit: moi, je veux ne parler que de la course. Et le lendemain, il y a eu un papier dans Tout au Sport où on l'a cassé en lui disant...
Italiens cassent les coins en français, c'est pas nouveau.
Il donne un peu le bâton pour se faire battre tout de même, Jérôme Pinot, Nicolas Pertuis, ça vous fait sourire? Pourquoi ça vous fait sourire? C'est vrai, attitude qui est parfois un peu... Je veux dire, je vais vous dire, il aurait peut-être fait preuve davantage de classe... S'il avait pas remis ça sur le tapis, il a souligné le fait que les journalistes, par exemple, étaient très distants par rapport à lui sur ces dernières années. Apparemment, il en a souffert. Mais j'ai envie de dire, c'est normal aussi. Jérôme Pinot, c'est pas Bernard Hinault, c'est pas Armstrong, c'est pas, j'allais dire, c'est même pas Vauclair. Je veux dire, il a tout de même pas l'aura médiatique, il n'a pas franchement une popularité, Jérôme Pinot.
Quand il était chez Bouygues, il était populaire, moi, je trouve.
Bon, je ne suis pas persuadé, Nicolas Pertuis. Donc, pourquoi réclamer à ce point l'attention des journalistes pour derrière, finalement, justement, leur reprocher ce manque d'intérêt?
Je pense que c'est un instinct de survie. Il faut aussi survivre quand on vit une situation qu'a vécu Jérôme, parce qu'il faut se rappeler qu'en 2000, à la création de l'équipe Bouygues, après la boulangère, et il était l'un des cadres de l'équipe, donc il a eu une grosse pression par rapport au classique. On peut pas dire qu'il s'est raté, mais ça n'a pas été ce qu'on attendait de lui. Et puis il faut remettre les choses dans leur contexte. On est quand même dans une équipe Bouygues
où on aime bien avoir des mots un peu forts, où on aime bien montrer qu'on est fort.
Les meilleurs.
C'est pas qu'on est les meilleurs, c'est que nous, on aime le cyclisme que l'on fait. Et je veux dire, Didier Rousse l'a fait aussi avant Jérôme Pinault. C'est un peu des grandes gueules. Il était un peu dans ce moule-là, Jérôme. D'ailleurs,
est-ce que c'est un mal ?
D'ailleurs, Didier Rousse a une influence et a toujours une influence importante dans la carrière de Jérôme. Donc, les médias s'en sont servis aussi de ça. Les médias étaient bien contents de trouver quelqu'un qui parlait des coureurs soi-disant dopés à l'étranger. Nous, on a été les premiers à s'en servir de Jérôme Pinault. Alors aujourd'hui, ne l'oublions pas, oui. Simplement.
Il n'était pas obligé d'aller sur ce terrain aussi. Il aurait pu.
Mais tout le monde allait sur ce terrain il y a 6 ans, Manu. Tout le monde dans les équipes françaises prenait le bâton pour battre les autres.
Si Pinault gueule et ne gagne pas, on peut le critiquer. Mais un Pinault qui gueule et qui gagne, moi je dis c'est très bien. Au contraire, il y a bonus.
Sauf que le problème là, c'est justement c'est qu'il n'a pas gueulé.
Non, c'est ça le problème.
Non, il n'a pas gueulé maintenant.
C'était le problème.
On discute de la grande gueule de Pinault.
Bien sûr.
Ben moi, je dis, on a suffisamment de types qui sont transparents pour accepter que Pinault.
Là où je trouve moins bon Jérôme Pinault,
dites-nous.
Et pourtant, je l'aime beaucoup, c'est quand il prend la défense de Bounon, quand Bounon a ses problèmes. Là, je le trouve moins bon parce que alors là, on passe du tout au rien.
Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, il a remporté cette 5e étape. On lui tire, bien sûr, notre chapeau parce que tout de même, c'est une performance. Ça reste une performance de toute façon, quoi. Qu'il arrive de remporter une belle étape sur un grand tour, que ce soit le Giro, la Vuelta ou le Tour de France.
Heureusement qu'il ne s'est pas fait battre par Fouchard au sprint.
Oui, ça aurait fait mal. Sinon, bien sûr, au moral, à mon avis, ça aurait été difficile.
S'il gagne l'étape d'Estrade Blanche,
on n'en est pas là pour l'instant. Ça réagit beaucoup sur le Facebook. On remercie bien sûr Arnaud, on remercie Nico Ricardo, El Pistolero, Martin Loire-Doisier qui nous écoute et qui pose des questions. Continuez dans la deuxième partie d'émission, puisque dans quelques.
Rends l'ardoise, Martin.
Minutes, on va. Et il a un blog assez intéressant d'ailleurs. C'est l'occasion de lui faire un petit peu de publicité si vous êtes passionné de vélo, allez voir, ça vaut le coup d'œil. On va recevoir Laurent Jalabert plutôt, le sélectionneur bien sûr de l'équipe de France d'ici quelques minutes, juste après les infos.
11h-12h sur RTL Équipe. Carrément Vélo, Emmanuel Barthes.
Carrément Vélo jusqu'à midi sur le www.rtl-l'équipe.fr. Au sommaire, bien sûr, le Giro. On rappelle que c'est Alexander Vinokourov qui porte le maillot rose de leader. On en a parlé, on va passer à autre chose. Dans la deuxième partie d'émission, dans les prochaines secondes, Laurent Jalabert, le sélectionneur de l'équipe de France, sera avec nous. Nous parlerons également de la victoire de Mark Cavendish lors de la première étape du Tour de Californie. Et on n'oubliera pas, bien sûr, la victoire également de Jimmy Casper hier sur le Tour de Picardie, remporté par Ben Swift, le coureur de la formation Sky, donc le coureur britannique 22 ans seulement, qui remporte donc hier le Tour de Picardie. N'hésitez pas à réagir, vous êtes nombreux à le faire. Merci à Arnaud, merci à Nico, à Martin également, qui n'hésitent pas à poster leurs commentaires sur la page Facebook de Carrément Vélo. Surtout, n'hésitez pas, elle est là pour ça et elle est là avant tout pour vous, bien sûr. Il est 11h35, nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Carrément Vélo, c'est sur RTL Équipe.
Pierre Salviac est avec nous.
Oui, bonsoir.
Tout va bien,
oui,
Pierre.
J'ai repris ma respiration.
Je vois.
J'étais en apnée.
Frédéric Mille également du cycle et Nicolas Pertuis de Vélo Magazine. N'oubliez pas, si vous voulez écouter ou réécouter, bien sûr, le podcast de Carrément Vélo, je vous donne l'adresse rtl.fr. rtl.fr, rien de plus simple. L'émission sera en ligne également sur la page Facebook de Carrément Vélo dès demain. Dans les minutes, les prochaines minutes, avant midi peut-être, ou alors dans l'édition de la mi-journée, la liste de Raymond Domenech, pour l'instant, elle n'est pas tombée. Ne vous inquiétez pas, je surveille là du coin de l'œil, bien sûr, sur le site de la Fédération Française de Football. 23, 24 ou 25 joueurs, on ne sait pas encore, c'est un petit peu l'interrogation, quoi qu'il arrive. Dans les prochaines minutes, avant 13h, nous serons bien sûr au courant de la liste qui est de joueurs. Qu'est-ce qu'il y a, Nicolas Pertuis? Pourquoi vous rigolez?
Non, c'est un peu Koh-Lanta, l'équipe de France. Quoi. Il y en a éliminé tous les jours.
Ouais, c'est un petit peu Koh-Lanta, effectivement. Bon, là, il y a 6 ou 7 joueurs qui vont passer la trappe. On attend bien sûr leur identité.
Vélo,
oui, on va parler vélo, vous inquiétez pas. Ça vous intéresse pas?
S'il va nous faire une liste de 25 qui réduirait après à 15.
Ah oui, pourquoi
après
pas.
À 10, ah oui, c'est une bonne idée pour faire parler du vélo tout le temps.
Non, mais c'est sympa, effectivement, d'avoir pourquoi pas poser la question à Laurent Jalabert, savoir ce qu'il pense de Raymond Domenech, qui reste de toute façon un personnage controversé, ça c'est sûr.
Non, mais il n'existe plus, puisqu'il y a déjà son remplaçant qui est désigné.
Oui, Laurent Blanc, on peut le dire.
Quand même le faire, quand même.
Oui, mais pourquoi pas.
Attends, bon. J'avoue que là, c'est...
Moi, il n'y a pas de pression, Marc.
Ah oui,
ça, c'est sûr.
On a qu'à faire pareil avec les présidents de la République aussi.
Bon, allez. Messieurs, le football, c'est cet après-midi de 16h30 à 18h avec Raphaël Sebaoun, bien sûr. Donc, Carrément Football, pour l'instant, c'est Carrément Vélo. Et d'ici 2 minutes, Laurent Jalabert sera avec nous pour terminer sur le Tour d'Italie. Donc, Nicolas Pertuis, encore quelque chose à dire? Parce que là, on va meubler, comme on dit.
Oui, quand même, parce que 7e Carpets.
Oui, Vladimir Carpets.
Ce garçon est imprévisible.
Et si c'était lui, le trouble fait de ce Giro?
Et pourquoi pas?
En haute montagne, est-ce qu'il ne sera pas un peu limité tout de même? C'est la question.
Le Giro est très long, la troisième semaine est très dure. Les trois derniers jours sont dantesques. La veille du chrono, 6000 mètres de dénivelé sur l'étape de montagne. 6000 mètres
ça dépend ce que vont en faire les coureurs.
Moi, je ne pense pas. Hier, il a déjà été largué dans la montée du Terminillo, donc je ne vois pas comment il pourrait renverser la vapeur pour remonter...
T'as déjà vu des coureurs à la rue une première semaine et ressusciter la troisième semaine quand même.
Ouais.
C'est déjà vu, non?
Non.
Non. Ah bon, bah alors j'ai dû manquer des étapes alors.
Non, c'est vrai que si on commence par perdre du temps dès la première étape de montagne, qui n'est pas franchement l'étape la plus difficile, ça commence.
Oui, mais
quand
il
même
est tellement imprévisible. On l'a vu gagner un Tour de Suisse, ce garçon. On l'a vu être.
Conchellara aussi remporté un Tour de Suisse.
Ouais, hein. Mais c'était pas le même.
On est d'accord.
C'était pas le même.
J'attendais.
On l'a vu 15 jours plus tard être. Pas bon sur le Tour de France cette année-là, donc il est très imprévisible, mais ça reste un coureur de qualité, il faut pas l'oublier.
Alors pas vraiment d'accord pour Carpets, c'est Guillaume Vidal qui réagit, il avait du mal hier dans l'ascension finale, c'est ce que vous nous disiez effectivement.
Oui, mais Landis a eu du mal aussi dans une ascension un jour et a gagné le Tour.
Oui, enfin le lendemain il s'est refait la cerise, mais ça s'est passé un peu plus difficilement, on va dire autrement pour le coureur américain sur la suite du Tour de France.
Nicolas a raison de dire qu'on peut pas évacuer le cas Carpets comme ça.
Bon, justement, vous parliez d'un coureur américain, le Tour de Californie, on va peut-être en parler avant de recevoir Laurent Jalabert, vous en pensez quoi? Victoire de Cavendish, un beau plateau hein, autour de Californie. Je pense que les organisateurs ne regrettent pas d'avoir déplacé l'épreuve de février à mai, avec Schleck, avec Armstrong, Leifheimer, avec Conchellara également. Très beau plateau, hein. Plus beau plateau que sur le Giro en tout cas.
Ouais, alors moi personnellement, le Tour de Californie, la seule chose qui m'y intéressait, c'est de voir le comportement de Bosse par rapport à Cavendish. Le reste, j'avoue que je m'en fous, mais alors totalement, parce que j'ai regardé le parcours, j'ai regardé le relief. Mais
comment ça? Attendez, je peux pas croire ça. Vous qui êtes un passionné de vélo, vous en foutez d'Armstrong, par exemple, sur le Tour de Californie? On est à 50 jours du début du Tour de France.
Pas, je m'en fous, mais c'est simplement que le Giro est trois fois plus passionnant que le Tour de Californie. En même temps,
d'accord.
Maintenant, on sait tous que Cancellara, pour lui, ça va être une reprise. Armstrong, il va filocher pour Leifheimer. Andy Schleck, c'est pareil, c'est une reprise après les classiques. Enfin, voilà, je veux dire,
les détails sont importants, le positionnement,
Nicolas veut dire, si j'ai bien compris, c'est que ce ne sont pas les noms qui font la course, c'est la course qui fait les noms. Faut pas se tromper.
Alors,
pas la queue qui a mu le chien.
Oh, bah alors là, on est mal barré sur le Tour de Californie. Hein,
je suis pas de votre avis. Je suis passionné par ce Tour de Californie. D'ailleurs, hier, je me suis couché une heure pour le suivre en direct.
C'est pour ça que vous êtes un peu fatigué, en fait.
Voilà. Et je suis passionné parce que, d'une part, je trouve que le plateau est excellent. D'autre part, il va y avoir une étape de montagne, certes, qui va être palpitante. Un contre-la-montre, un beau plateau. Par contre, hier, j'ai regretté de m'être couché une heure du matin parce que de voir une arrivée sur un circuit urbain comme ça, un critérium.
C'était la première étape, Frédéric.
Ouais, mais j'aime pas les arrivées sur un critérium comme
bien
ça.
Tu exposes les limites de cette course.
Le parcours, franchement, m'a déçu hier.
Vous qui étiez en Australie pour le Tour d'un Under, vous avez dû sacrément vous embêter
ouais,
là-bas.
Mais,
alors, hein.
Oui, mais Tour d'un Under, il y a deux étapes comme ça, mais le reste, c'est...
On parlait du Tour de Californie en le comparant avec une autre course qui a lieu en même temps, c'est le Tour d'Italie. Mm. Et c'est ce qu'on était en train de dire. Et tu dis toi-même, finalement... Bien que tu aies veillé, que la course, le relief, etc.,
pour la course d'hier. Pour la course d'hier.
Moi, ce que je veux simplement dire, c'est que le Tour de Californie n'est pas un objectif pour Cancellara. Le Tour de Californie n'est pas un objectif pour Armstrong.
Si Armstrong commence à se tester sur le chrono, parce que là, on est très
proche du Tour de France. Mais le chrono du Tour de Californie, c'est un objectif pour Armstrong. Mais je parle du Tour de Californie.
Oui, mais ça reste un contre-la-montre.
Le Tour de Californie, c'est un objectif pour qui, Manu? Pour qui?
Pour
Leipheimer et Zabriski, on s'arrête là?
On
fait une bataille, on rentre chez nous.
Entre-temps, il y a des victoires d'étape, Nicolas. Entre-temps, il va y avoir de la bagarre.
Dis, la seule chose qui m'intéresse ce Tour de Californie, c'est voir le niveau de Bosse par rapport à Cavendish, c'est tout. Mais ça, c'est moi personnellement.
Et si Pinot gagne une étape du Tour de Californie et gagne une étape du Tour d'Italie, je suis désolé, il y en a une qui restera dans la mémoire des fans de cyclisme, c'est plus la victoire dans le Giro.
En tout cas, je suis d'accord avec vous, Pierre, concernant le duel entre Bosz et Cavendish, pour l'instant, c'est avantage à Cavendish, de toute façon, puisqu'il remporte la première étape.
Oui, alors...
Vous avez déjà des réponses, Nicolas?
J'ai déjà une réponse.
Bon, il s'agit de passer à autre chose maintenant, peut-être s'intéresser au contre-la-montre.
Non, mais peut-être qu'effectivement, le contre-la-montre va être intéressant.
Bon, on suivra ça de très près, en tout cas, parce que
tu peux le faire en soufflerie,
là, messieurs, il y a 50 jours tout de même avant le début du Tour de France. Hein. Ça veut dire que si Armstrong, il a un pet de travers sur le Tour de Californie,
mais
où il a
pose
un petit
le problème,
problème
Armstrong. Alors pose le problème Armstrong dans le Tour de Californie, mais pose pas le problème du Tour de Californie.
C'est tout de même intéressant de voir où est-ce qu'il en est précisément.
Ah, alors si tu parles d'Armstrong, parlons-en.
Il restera encore le Tour de Suisse, même s'il n'est pas encore au top, on est qu'au mois de mai. Il reste certes 50 jours, mais il lui reste encore le Tour de Suisse qu'il va faire, où il pourra monter en pression. On se rappelle de Ulrich, il faisait à chaque fois ça, il arrivait très fort au Tour de Suisse. Bon. Donc moi je pense plutôt attendre le Tour de Suisse.
Alors si on se dirige vers un duel entre Vinokourov et Cadel Evans sur le Tour d'Italie, Nicolas Pertuis, si on vous écoute et on vous fait confiance bien sûr, on se dirige donc vers un duel entre Zabriskie et c'est ce que vous nous avez dit.
Non, moi je dirais Rodgers.
Et Rodgers, ouais, peut-être.
Rodgers, parce que pour l'équipe HTC Columbia, c'est très important ce...
Bon, allez, on ne peut pas tout faire en même temps, ramasser son stylo et parler dans le micro, non, ça devient compliqué.
J'ai peur que ça coupe.
Non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, vous êtes à l'antenne.
C'est très important pour l'équipe HTC Columbia de gagner ce Tour de Californie. Bon, et Rodgers allez, y est préparé.
Le Tour de Californie, on va peut-être en reparler d'ici la fin de l'émission, puisqu'on va accueillir Laurent Jalabert, le sélectionneur de l'équipe de France et consultant également RTL, bien sûr, pour le vélo. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Merci d'être en direct dans Carrément Vélo. Je ne sais pas si notre petit débat vous a intéressé autour du Tour de Californie. Vous le suivez
J'ai pris en cours de route, là, j'ai écouté juste la fin.
D'accord. Bon, on n'est pas trop d'accord sur l'importance de cette épreuve qui a été déplacée de février au mois de mai. Est-ce que c'est une épreuve avec un beau plateau tout de même, puisqu'on a presque les meilleurs du début de saison? On a les Cancellara, on a les Schleck, on a Armstrong également, Leifheimer. Est-ce que c'est une épreuve qui peut faire de l'ombre? Puis après, on va passer à l'équipe de France, mais est-ce que c'est une épreuve qui peut faire de l'ombre au Giro, par exemple?
Non, pas forcément, non. Je crois que chaque épreuve se suffit elle-même. Hein. Ça dépend de la participation, le Tour d'Italie. Ce sont souvent les Italiens qui brillent. Il y a cette année en plus Cadel Evans, le champion du monde, Vinokourov, qui est là pour faire la course. Donc il y a le Giro, à mon avis, cette année, il y a un beau plateau et il présente un certain intérêt quoi, sportif. Tour de Californie aussi, hein, mais bon, c'est une course qu'on connaît moins ici.
C'est vrai.
Et qui est assez jeune et bon, finalement, ça parle moins.
Ça a de la gueule tout de même, Laurent Jalabert, de voir Cadel Evans avec le maillot de champion du monde dans les premières positions du Giro. Hein.
Ah oui. Bah, déjà, de le voir remporter la Flèche Wallonne, ça avait... Ça avait déjà beaucoup de gueule. Maintenant, sur le Tour d'Italie, il est là pour jouer la gagne. C'est très bien. C'est vrai que ça fait plaisir de voir un champion du monde capable de jouer les premiers rôles.
Alors, on va parler des coureurs français, Laurent, parce que c'est ça qui nous intéresse tout de même. Depuis le début de la saison, quelques belles victoires. Je pense à Federigo sur le Critérium International, avec la victoire de Pinot également là sur le Tour d'Italie, qui a fait débat dans la première partie de l'émission. Quel regard vous portez sur l'attitude des coureurs français depuis le début de la saison, en tant que sélectionneur, bien sûr?
Bah, je porte un regard attentif, déjà, parce que l'attitude des coureurs français, elle m'intéresse beaucoup. Je les trouve beaucoup plus décomplexés qu'ils ne l'étaient. Enfin, ils étaient très complexés il y a quelques années. Au fil des années, je trouve qu'ils commencent à avoir une meilleure attitude en course. On a le sentiment qu'on ne vient plus sur les courses pour participer, ce qui était souvent le cas, en faisant un complexe d'infériorité. Maintenant, on vient avec l'ambition de bien faire. Donc ça, c'est une grande évolution hein, dans le cyclisme français. Et d'ailleurs, il y a quelques belles victoires qui sont encourageantes. Vous venez de les citer. Le Critérium, c'est une belle course avec une très belle participation. Et Federigo l'a emporté avec autorité. Donc ça, c'est très bien. C'est la preuve qu'on est capable. De la même manière que les Français sont capables de dominer dans certaines disciplines sportives, il n'y a aucune raison que dans le cyclisme, ce soit autrement.
Malheureusement, c'est vrai que, Laurent, quand on arrive par contre sur les grosses épreuves, je pense aux classiques, là, ça devient franchement plus compliqué tout de même pour les coureurs français.
Oui, quelquefois. Mais il y a certaines classiques où on a toujours un meilleur comportement. Pourquoi ? Parce que probablement dans les équipes, on arrive davantage à sensibiliser les coureurs à ces courses-là, à les motiver. Et sur d'autres courses, visiblement, c'est un peu plus compliqué. Bon, c'est peut-être un problème d'éducation, de culture. Aujourd'hui, il y a le Pro Tour avec ces nouvelles épreuves qui, pour moi, ne représentent pas... autant que les grands monuments du cyclisme. C'est, quand on me parle d'un Tour de Pologne ou d'un Tour de Californie, ça ne me dit rien. Je n'ai jamais participé à ces courses-là. En revanche, oui, un Liège-Bastogne, un Tour de Lombardie, c'est des courses qui me parlent et pour lesquelles on n'est pas toujours très motivé.
Comment ça se fait justement que les coureurs français ont tant de mal à passer cette fameuse barre des 230 km? Parce qu'on a le sentiment que là où ça visse véritablement, et puis vous étiez coureur, là on a le sentiment que ça devient compliqué pour les coureurs français passer la barre des 230-240 km.
Ben, c'est toujours compliqué et c'est là que la course se décide. Donc ces courses-là, elles se préparent déjà en faisant quelques compétitions qui vous rapprochent des difficultés des courses que vous allez, enfin de l'objectif que vous allez devoir affronter, et puis aussi avec des entraînements très, très soutenus. Bon, moi c'est un peu ce que j'avais essayé de faire passer comme message au moment des championnats du monde de l'année passée. Ça n'a pas été très bien compris par tous et ça a été pas mal critiqué après coup. En se disant que j'ai cramé certains coureurs en les faisant trop rouler. Bon, j'ai été coureur cycliste, il se trouve que j'ai gagné pas mal de courses et j'étais pas mal aussi dans l'allure d'un certain, d'un très haut niveau. Et j'avais l'habitude de beaucoup rouler, donc je veux bien comprendre que c'est une autre époque, hein, mais il n'y a pas de secret. Une course de 260, c'est toujours 260 km. Et en faisant 200 km à entraînement, il n'y a pas de chance d'être compétitif dans les derniers kilomètres pour porter une attaque décisive.
Nicolas Pertuis.
Bonjour Laurent.
Bonjour.
L'année passée, avant les championnats du monde, je m'étais posé la question, et j'en avais fait un sujet dans Vélo Magazine, de savoir ce qui allait changer avec votre arrivée. Moi, j'ai été sous le charme, en tout cas, des propos que vous aviez eus en essayant de, peut-être dans certains détails, d'interférer sur la préparation de certains coureurs. J'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné, en tout cas, dans ce qui a été perçu de la part des coureurs de ça. Les résultats aux mondiaux n'ont pas fait qu'il y a derrière. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu un élan. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qui s'est passé l'année dernière, il y a eu une réunion au début de saison avec la Ligue, enfin je ne sais pas, avec Madio, je ne sais plus exactement que ça s'est passé, mais j'ai l'impression que vous êtes sorti un peu affaibli de cette réunion et que finalement, on vous abstient simplement un rôle de sélectionneur un mois avant les mondiaux. Est-ce que je me trompe, Laurent ?
Bon, vous prenez un raccourci un peu direct, mais c'est vrai que l'année passée, je me suis énormément investi pour cette course, pour cette mission d'ailleurs, en essayant justement, on m'a reproché tout le contraire à ce que j'ai fait. De ne pas prendre contact avec les entraîneurs des équipes, ce qui est faux, j'ai pris contact. Alors il faut dire qu'il n'y avait que 6 coureurs sélectionnés, 2 étaient sur la Volta, 2 n'avaient pas d'entraîneur. Et donc le seul qui a ouvert sa bouche, si je puis dire, c'est le seul que j'ai appelé. Donc je pense qu'il aurait mieux fait de se taire. J'ai essayé d'avoir une démarche cohérente. D'abord je repère le parcours, j'évalue la difficulté, je fais un choix au niveau des coureurs, suivant le profil qui peut convenir sur ce type de parcours. J'ai discuté beaucoup avec eux. Tous m'ont dit être très motivés pour préparer les championnats du monde. Donc pour moi, je sais ce que ça veut dire, être très motivé pour préparer un championnat du monde. Donc j'ai souhaité connaître leur programme de course, leur programme d'entraînement. Et je me suis permis, effectivement, d'émettre un jugement sur l'approche de certains qui ne me semblaient pas adaptés à une préparation sérieuse. Donc voilà, après on m'a reproché de ne pas avoir de diplôme, donc effectivement j'ai pas de diplôme d'entraîneur, mais par contre j'ai une carrière de 14 ans de cycliste professionnel d'un très haut niveau, et ces courses-là je les ai disputées pour les gagner, donc l'approche je crois que je m'y connais un petit peu mieux peut-être que certains entraîneurs qui n'ont jamais fait vélo. Soit j'ai été, comme le sont probablement les directeurs sportifs ou les entraîneurs des équipes, obligé moi aussi de faire confiance aux coureurs qui sont chez eux, qui s'entraînent, et certains, enfin la plupart, en tout cas les quatre qui n'étaient pas sur le Tour d'Espagne, m'ont assuré qu'ils allaient préparer le championnat de la meilleure façon. Donc je leur ai fait confiance, le résultat n'a pas été à la hauteur. Est-ce qu'ils ont vraiment fait le travail que je leur ai demandé de faire ? Bon, j'étais pas là pour le contrôler jour après jour.
Bien sûr.
Moi, je fais confiance, je crois que oui. Après, la dynamique de groupe, elle était là. Il y avait une bonne ambiance au championnat du monde. Il y avait un esprit d'équipe. Mais c'est vrai que dans la course...
Puis ça reste de toute façon, Laurent, ça reste toujours aléatoire, bien sûr, un championnat du monde. Je me permets de vous couper, Laurent, puisqu'en tant que sélectionneur de l'équipe de France, j'imagine que vous suivez, bien sûr, votre homologue, enfin, du football, Raymond Domenech, puisque l'actualité est importante, bien sûr. La sélection pour le prochain stage à Tignes vient de tomber. Patientez juste quelques secondes, Laurent, si vous le voulez bien, et on vous récupère juste derrière, bien sûr.
RTL L'Équipe, la radio sport et info.
Allez, Raphaël Sebaoun est en studio. Bonjour Raphaël.
Salut Manu, salut à tous.
Et donc Raphaël, vous allez nous communiquer le groupe de joueurs qui participera au stage de préparation à la Coupe du Monde 2010.
Alors il y a 6 joueurs qui finalement quitteront le groupe. Il y a 24 joueurs qui ont été retenus par Raymond Domenech. Les 6 joueurs qui ont donc été exclus par Raymond Domenech: Michael Landreau parmi les gardiens de but, Adil Rami, le défenseur central du LOSC, Rod Fanny, l'arrière droit du Stade Rennais, donc vous l'aurez compris, Anthony Réveillère est dans cette liste. Au milieu de terrain, pas de surprise, Yann Mvila n'est pas dans la liste des joueurs appelés par Raymond Domenech. Et puis les 2 attaquants, Jimmy Briand et Atem Ben Arfa, ne figurent pas dans cette liste de 24 joueurs. Donc ce qui nous donne au but, vous l'avez compris, Cédric Carasso, Hugo Loris et Steve Mandanda. Pas de Michael Landreau donc. En défense, Eric Abidal, Gaël Clichy, Patrice Evra, William Gallas, Marc Planus, Anthony Réveillère, Bakary Sagna et Sébastien Schillaci. Ce sont 2 surprises finalement, Marc Planus et Anthony Réveillère, qui n'étaient pas donnés dans les pronostics. Au milieu terrain, Abou Diaby, Alou Diara, Lassana Diara, Johan Gourcuff, Florent Malouda et Jérémy Toulalan. Et puis donc les attaquants, Nicolas Nelka, Djibril Cissé, André-Pierre Gignac, Sidney Govou, Thierry Henry, Franck Ribéry, Mathieu Valbuena. On redonne donc les 6 qui ont été sortis de la liste, Landreau, Rami, Fanny, Mvila, Bénard, Fabrian. Il y aura un dernier joueur qui sortira de la liste, ça dépendra bien évidemment de la blessure ou du forfait de William Gallas.
RTL équipe, carrément vélo.
Allez, quelques minutes bien sûr avec Laurent Jalabert. Laurent, ça c'est une situation que vous connaissez bien sûr. C'est jamais facile de faire une sélection pour un championnat du monde. Hein.
Non, c'est pas facile. Non, bien sûr. C'est même très difficile de choisir les bons éléments. Et forcément, on fait des déçus. Donc oui, c'est quelque chose que j'ai découvert l'année passée. Et non, c'est pas une partie de plaisir. On fait de son mieux, mais forcément, la décision elle n'est pas acceptée par tout le monde de la même manière.
Tiens, on va s'écarter un petit peu du vélo. Vous pensez quoi de Raymond Domenech, l'homme en tant que sélectionneur de l'équipe de France?
Je ne suis pas amateur de football.
D'accord.
Laurent, c'est Pierre Salviac. On a eu une idée tout à l'heure dans Carrément Vélo. On a suggéré que pour faire du teasing, tu nous fasses d'abord une liste de 30, puis une liste de 23, puis après une liste de 6. Au moins, ça fait parler de toi et de l'équipe de France.
Ouais, non, mais c'est vrai. Ça, c'est une belle façon de faire parler de soi. Mais moi, ce n'est pas mon objectif. L'année passée, j'ai voulu un peu rentrer dans les schémas qui étaient déjà existants, à savoir faire une présélection. Donc déjà, la présélection, déjà, ça donnait l'occasion de tailler un peu. Ensuite, j'ai fait une sélection. Là aussi, les présélectionnés qui n'ont pas été sélectionnés ont eu l'occasion de pouvoir s'exprimer et de m'en mettre un petit coup aussi. Donc cette année, je pense que je vais carrément faire différemment. On a fait le constat l'année passée lors des championnats du monde, parce qu'on a essayé de faire les choses bien quand même. On a débriefé aussi après la course et tous les coureurs présents ont reconnu que dans les 20 premiers, il y avait 17 coureurs qui sortaient du Tour d'Espagne. La conclusion, c'est que pour être compétitif au championnat du monde aujourd'hui, il convient de participer au Tour d'Espagne. Donc le choix, je pense qu'il se fera parmi les coureurs qui partent dans le départ au Tour d'Espagne. Aujourd'hui, je ne sais même pas qui fait le Tour. Donc on ne sait toujours pas qui fera le Tour d'Espagne après le Tour. Oui. Et je verrai bien au moment du départ du Tour d'Espagne quels sont les coureurs qui ont la possibilité peut-être d'être compétitif au mois d'octobre, à l'époque où tout le monde pense déjà aux vacances. Eh bien, il faut se soumettre à de grosses charges d'entraînement, en tout cas de grosses charges de travail. C'est soit on est très vaillant et très assidu à l'entraînement, soit on sort d'une compétition comme peut l'être le Tour d'Espagne, qui est un grand tour, et on est dans l'allure au championnat du monde.
Là, c'est toujours compliqué hein, de mettre le doigt sur la bonne préparation. Il y a deux écoles, effectivement, participation ou non au Tour d'Espagne. Nicolas Pertuis, c'est vrai que ça devient compliqué. On sait que les calendriers sont de plus en plus longs. La saison est de plus en plus longue.
C'est compliqué, mais c'est sûr que Laurent a raison en disant que souvent, le champion du monde sort de la Volta. On l'a vu avec Cavendish, avec Cadel Evans l'année passée. Mais moi, je suis un peu déçu parce que j'espérais beaucoup, avec ce que disait Laurent l'année passée avant le champion du monde, j'espérais beaucoup que... qu'il y a une évolution un peu en France.
Bien sûr.
Enfin, en France, il y a des très bons coureurs. Hein. Je ne veux pas dire que voilà, on s'entraîne mal et tout ça, c'est pas ça. Mais j'espérais qu'il y a un mouvement derrière et j'ai l'impression que finalement, ce mouvement, il ne va pas se faire parce que quand il dit finalement Laurent, je verrai ceux qui sont à la Vuelta. Donc ça veut dire que finalement, au niveau préparation, il n'a pas trop son mot à dire et c'est dommage. Quoi. Moi, je trouve ça dommage en tout cas.
C'est carrément ça, oui. Non, au niveau préparation, on m'a bien fait comprendre que.
Mais attendez, c'est pas possible, Laurent. Vous pouvez pas taper du poing sur la table, leur dire attendez, avec votre carrière, votre stature, à un moment donné, les directeurs sportifs, les managers doivent comprendre que l'équipe de France avant tout, cet esprit équipe de France que vous avez voulu imposer.
Écoutez, la question c'est pas de faire du bruit. Taper du poing sur la table, ça fait du bruit, mais il faut être écouté. Or, moi j'ai les coureurs pour une compétition dans l'année. Et ils sont sous contrat avec des équipes de marque qui les rémunère tout au long de l'année avec des objectifs qui ne sont pas forcément les mêmes que le mien. Moi, c'est le championnat du monde. Alors, le championnat du monde, aujourd'hui, qui y pense? Je peux vous dire que si vous faites le tour des équipes, il n'y en a pas beaucoup qui y pensent encore. Hein. Donc, il faut être patient, il faut attendre. Et la réalité, c'est que pour la Fédération française de cyclisme, pour avoir une équipe compétitive au championnat du monde, eh bien, il va falloir probablement taper dans les coureurs qui font le tour d'Espagne parce que naturellement, ils seront en grande condition parce qu'ils auront fait une course de 3 semaines. Le constat, il est là. J'ai essayé d'amener quelque chose, non pas de nouveau, mais de faire partager mon expérience. Mais c'est vrai qu'il y a des habitudes qui sont prises et il n'est pas facile de les changer pour une seule course à l'année.
Ouais, c'est pas facile tout ça, hein, véritablement, Pierre Salviac, de travailler dans de telles conditions.
Moi, ce qui vient avec Laurent Jalabert, c'est qu'en une interview, il en dit plus que Domenech en 10 conférences de presse. Donc déjà, je suis gagnant en tant qu'auditeur et passionné de vélo. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis un peu surpris quand même de l'attitude des groupes français parce qu'on est quand même dans un monde professionnel. Je pense qu'un groupe français qui aurait un coureur français champion du monde, il tirerait autrement parti de cette notoriété que d'avoir un coureur qui fait que de la figuration. Donc l'argument qui consisterait à dire n'aidons pas le sélectionneur national parce qu'on n'en a rien à foutre de gagner cette course-là parce qu'on le paye à longueur d'année pour faire d'autres résultats, je trouve qu'il est naze de la part de ceux qui auraient la tentation de se conduire de cette manière.
Non, mais c'est pas ça non plus. Je veux dire, ils sont pas dans cette logique-là d'aller contre la volonté de l'équipe de France, mais simplement c'est une course supplémentaire dans l'année. Alors certes, elle est très importante.
Bah, la retombée pour eux, c'est tout bonus quand même.
Mais oui, la retombée, oui, mais le sacrifice qu'il faut faire pour un résultat hypothétique, bah, aujourd'hui, il se justifie pas vraiment. Il y a quand même entre la fédération et les groupes sportifs. Représenté par la Ligue, il y a quand même pas mal de différends encore à résoudre sur la mise à disposition des coureurs à l'équipe de France. Voilà, des problèmes qui ont été soulevés dans d'autres disciplines sportives. Le vélo, c'est pas un sport riche, contrairement à ce que l'on peut croire. Il n'y a pas de droit télé qui soit reversé. La fédération de cyclisme, c'est pas non plus une fédération qui est riche et qui peut se permettre de reverser aux groupes sportifs une compensation de salaire si les coureurs sont mis à disposition. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord pour une course à l'année.
Le cyclisme, pour tous les beaufs comme moi qui sont passionnés, c'est quand même le sport qui a le plus de spectateurs. Il faudrait peut-être quand même que les parties prenantes, en l'occurrence, et les fédérations et les groupes, considèrent que ce qu'attendent les supporters, c'est un maillot de champion du monde.
Ah oui, mais il est vrai que si le champion du monde retrouvait une place comme il occupait auparavant au mois d'août, on aurait beaucoup plus de chances d'avoir les coureurs français plus en avant que au mois d'octobre.
Ouais,
parce qu'au mois d'octobre, le Tour de France est loin derrière, on est passé à autre chose depuis longtemps.
Même si, ouais, Nicolas Pertus,
c'est d'autant plus vrai. Oui, parce que c'est d'autant plus vrai que la Classica Saint-Sébastien est souvent la classique où les Français sont les meilleurs.
Ouais. Classique a remporté notamment Laurent Jalabert.
Continue de parler vrai comme ça, Laurent.
Ah oui, complètement.
Merci. On est derrière toi.
C'est le cri du cœur, bien sûr, de Pierre Salviac qui est avec nous tous les lundis dans Carrément Vélo. Merci beaucoup, Laurent Jalabert, d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouvera bien sûr un petit peu plus tard sur le Tour de France, bien sûr à l'antenne de RTL. D'ailleurs, ça va arriver très rapidement. En attendant, bien sûr, on va suivre de quoi qu'il arrive les résultats des coureurs français. Merci beaucoup Laurent et à très vite bien sûr sur RTL Équipe. Ça réagit beaucoup hein, tout de même sur le mur Facebook. Malheureusement, on a été un petit peu coupé par l'annonce de Raymond Domenech. On reposera les questions, vous inquiétez pas, à l'occasion de dialoguer, d'échanger bien sûr. On voulait parler de Romain Sicard. On en a déjà parlé dans Carrément Vélo, bien sûr, des championnats du monde qui se profilent. Ça va être compliqué puisque c'est un profil très particulier pour les prochains championnats du monde. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci à vous.
Ça passe vite, hein.
Trop vite.
Ouais, trop vite, on est d'accord. Frédéric, merci beaucoup.
Ouais, trop vite aussi.
On vous retrouve, bien sûr.
Non, ça passe vite parce que quand il parle, Laurent Jalabert, il dit des choses intéressantes.
Allez,
aussi.
Pierre.
Ah oui.
Vous allez sur le sommet de
la
Tour Saint-Nicolas.
Les langues de bois, il y en a marre.
Sommet de la Tour Saint-Nicolas, nous faire un beau petit plongeon là, hein, de 50 mètres, ça va vous faire du bien. Ça va vous rafraîchir les idées. Il est midi sur RTL Équipe.
Carrément Vélo, c'est sur RTL Équipe.